La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Saporito de l'église protestante de Figeac. Nous continuons donc notre parcours du livre de l'Apocalypse dans la Bible. Nous avons vu la dernière fois dans les chapitres 8 et 9 l'ouverture du septième sceau et les six premières trompettes qui se sont mises à sonner et qui sont autant de jugements envoyés sur terre pour appeler instamment les hommes incrédules non marqués du sceau de Dieu à revenir à lui. La septième et dernière trompette n'a pas encore sonné à ce moment-là. Ces trompettes sont là non seulement pour avertir les hommes des jugements successifs avant qu'ils n'arrivent, mais elles sont des ultimes appels répétés de Dieu aux hommes afin qu'ils se tournent vers lui dans la foi en Christ et la repentance, et pour que l'Église de Jésus-Christ prie pour la conversion des incroyants. La sixième trompette pose le triste constat que même un châtiment et une souffrance aussi dure que la mort de un tiers des vivants et les autres qui ne se repentent pas, eh bien, ne suffisent pas à changer le cœur de l'homme. On s'était quitté la dernière fois avec les questions « Est-ce qu'il reste encore un moyen pour convaincre les hommes de se tourner vers Dieu ?» Oui, mais ça sera le dernier, avant que la septième et dernière trompette ne sonne, parce qu'après il sera trop tard. Les chapitres suivants que nous allons voir aujourd'hui, chapitres 10 et 11, sont donc une pause où Dieu appelle encore les non-croyants, pas par une trompette de jugement, mais par la prédication de sa parole. Rien de nouveau. Ce qui encouragera aussi par la même occasion le peuple de Dieu et lui dire que la fin n'est pas loin. Tenez bon! La vérité centrale que nous allons voir aujourd'hui est celle-ci. Jusqu'au bout, par ses jugements allant crescendo, Dieu appelle instamment les hommes à se tourner vers lui tellement il aime le monde. Et je vous propose de voir cela en deux points. Premièrement, nous verrons que la fin du jugement annoncé par la sixième trompette est un dernier appel de Dieu aux hommes par la prédication de sa parole. Et deuxièmement, eh bien nous verrons, la septième trompette, c'est celle de la victoire, le règne de Christ est arrivé. Je vous propose de lire, donc dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 10, les versets 1 à 11. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va !» Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Donc jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment. Cet autre ange puissant du verset 1, beaucoup pensent que c'est Jésus, le Fils éternel de Dieu, non créé, à cause de quelques similitudes avec la description de Jésus au chapitre 1, son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu qu'il pose sur la terre et sur la mer, comme pour montrer qu'il a pouvoir sur le monde entier. L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête rappelle l'alliance avec le peuple de Dieu et la sécurité qui en découle. Il tenait un petit livre ouvert à la main, a crié quelque chose, puis sept tonnerres ont parlé. L'apôtre Jean n'a pu écrire ces paroles et les a même scellées parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Peut-être comme certains aimeraient, Dieu a-t-il une nouvelle révélation à communiquer aux hommes et enfin ils se convertiront? Eh bien non, rien de nouveau. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur ce qui va arriver nous a été révélé et annoncé à l'avance dans la parole de Dieu, la Bible. L'ange de l'Éternel jura que lorsque la septième trompette sonnera, il n'y aura plus de délai. Ça sera trop tard pour se convertir et en réchapper. Jean se voit alors demander de prendre le livre dans la main de l'ange et de le manger. Il va être doux à sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Jean se voit demander de prophétiser encore sur les nations, à partir du livre qu'il a avalé. Ses écrits, nous les avons. Rien de nouveau. Ce sont l'évangile de Jean, ses trois épîtres et le livre de l'Apocalypse. Parole de Dieu donc. Quel effet produit sur vous la lecture de ce livre Apocalypse? Tout croyant devrait faire l'expérience que lire la parole de Dieu est un plaisir aussi doux que le miel. Et en même temps, donne la nausée quand on y lit les jugements qui attendent les non-croyants. L'Église de Jésus-Christ a le privilège de disposer de la parole prophétique du Seigneur. Qu'en faisons-nous? C'est le rôle missionnaire de l'Église, non seulement de prier pour le salut des nations, mais de prophétiser en annonçant non seulement l'Évangile, mais aussi les jugements à venir pour les incroyants. Plus la fin approche, plus Dieu avertit à l'avance et appelle encore et encore dans sa miséricorde à se tourner vers lui. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Personne ne pourra dire non plus que Dieu ne nous aime pas, car il aura tout fait et dit pour sauver les hommes de la destruction. Dieu demande non seulement à l'apôtre Jean de prophétiser, d'annoncer sa parole donc, mais aussi à ses deux témoins. Lisons donc dans le livre de l'Apocalypse, toujours le chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen donc jusqu'ici la parole de Dieu. L'apôtre Jean se voit demander de mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs, ce qui sous-entend la présence d'un temple terrestre pendant cette grande tribulation. Un temple différent du temple céleste dont il est question au verset 19. Aujourd'hui, il ne reste que le mur des Lamentations à Jérusalem et la mosquée à l'emplacement de l'ancien temple qui avait été détruit en l'an 70. Par cette demande, Dieu montre qu'il a et aura toujours ses yeux sur chaque croyant, même pendant cette période terrible de la grande tribulation. Par contre, Dieu ne demande pas de mesurer le parvis extérieur du temple parce qu'il est foulé aux pieds par ceux du dehors qui ne lui appartiennent pas, les non-croyants. Il sera profané pendant 42 mois, verset 2, soit 3 ans et demi, soit 1260 jours, ce qui correspond au règne visible de l'Antéchrist, la bête mentionnée pour la première fois au verset 7, dont il est question aussi en Apocalypse, chapitre 13, verset 5, que je lis. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Fin de citation. La septième et dernière trompette n'a pas encore sonné, et Dieu continue d'appeler à la conversion sept fois par ses deux témoins à qui il demande de prophétiser pendant le jugement même, c'est-à-dire pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi, soit 42 mois. Trois mesures différentes de la même période, peut-être pour que l'oppression semble moins longue. Pourquoi deux témoins? Eh bien parce que dans l'Ancien Testament, il fallait deux témoins pour confirmer une déclaration, voire Deutéronome chapitre 17, verset 6. Dieu réaffirme que sa parole est vraie. Leur mission sera d'avertir ceux qui sont venus adorer l'Antéchrist dans le temple qui a été profané. C'est pour ça qu'ils portent le deuil par leur sac. Qui sont ces deux témoins? Là encore, plusieurs interprétations. Certains y voient l'Église fidèle de cette période, constituée de juifs et de païens convertis. Le verset 4 les appelle, je cite, « les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre ». Fin de citation. On se rappelle que les églises sont appelées des chandeliers en Apocalypse 1, verset 12, avec la mission d'éclairer le monde. L'huile du chandelier vient de l'olivier et évoque le Saint-Esprit. Pendant 1260 jours, les deux témoins apporteront la lumière aux hommes, tout en étant remplis du Saint-Esprit et soutenus par lui. D'autres voient en ces deux témoins, dans un sens plus littéral, deux hommes, Élie et Moïse, familiers à Israël donc, vers qui ils sont de nouveau envoyés. Pourquoi Moïse et Élie? Eh bien parce que comme Élie, ils ont ce pouvoir de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Le verset 6 fait écho à l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 17, que je cite « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Fin de citation. Élie avait aussi le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, voire toujours dans la Bible, le deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 10. Et comme Moïse, lors de la première plaie d'Égypte, les deux témoins ont le pouvoir de changer l'eau en sang, voire Exode, chapitre 7, verset 20. Jésus donnera donc à ces deux témoins le pouvoir de faire venir sur la terre la sécheresse et la soif qui va avec. Dans quel but? Que les incroyants aient soif de la parole de Dieu, soient convaincus et se convertissent. Notre mission à nous chrétiens est de prier et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu, qui offre le pardon des péchés à quiconque se repent et croit en lui. Une application pour nous, chrétiens, est que c'est toujours mieux d'évangéliser à deux. Jésus envoyait ses disciples deux à deux. Une autre application est qu'il ne faut pas se décourager d'évangéliser, même dans un milieu extrêmement hostile. Élie était un homme de la même nature que nous avons lu dans l'épître de Jacques. Il n'était pas un homme extraordinaire, son pouvoir et celui de Moïse venaient de Dieu. Au terme de ces 42 mois, ces deux témoins seront mis à mort par la bête, l'Antichrist, et leurs cadavres ne seront pas enterrés, mais exposés à la vue du monde entier. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est possible avec Internet, ne soyons pas étonnés. Ils seront exposés à la vue du monde entier, dans la grande ville où Jésus a été crucifié, nous est-il dit, appelée symboliquement Sodome et Égypte, chapitre 11, verset 8. On peut y voir la ville sainte, la Jérusalem terrestre, apostate, appelée Sodome et Égypte, qui a copiné avec les païens et combattu Christ et les chrétiens. Quel affront et quelle haine pour ne pas enterrer un cadavre! Cela fera la joie de certains pendant 3 jours et demi. Après cela, Dieu les ressuscitera et ils seront enlevés au ciel pendant un grand tremblement de terre qui fera 7 000 morts à la vue de beaucoup. Parfois, Dieu utilise la manière forte pour sauver les hommes qui n'auront pas cru. En effet, les survivants finiront par donner gloire à Dieu par peur après avoir vu une résurrection spectaculaire, mais qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Pour nous qui croyons à celle de Jésus-Christ sans l'avoir vue, eh bien nous sommes heureux. Jésus ressuscité a dit à son apôtre Thomas dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Fin de citation. Des chrétiens vivant à cette époque souffriront, en effet. La souffrance fait partie de la vie du chrétien, car Christ a souffert. Demandez aux chrétiens persécutés en Afghanistan ou en Corée du Nord s'ils ne souffrent pas déjà. Mais Dieu est fidèle, il a promis qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dans la Bible. Même si la mort n'est pas à exclure, et est même une délivrance. Fin du deuxième malheur, durant lequel Dieu, après avoir retenu partiellement sa colère, en aura sauvé encore quelques-uns, juifs et non-juifs, qui lui auront rendu gloire. Gloire à Dieu. Verset 14, le troisième malheur vient bientôt, nous dit le texte. Voyons mon deuxième point. La septième et dernière trompette sonne, et là, ça y est, fin de la grande tribulation, Christ vient établir son règne sur la terre. Alors il y a une louange au ciel, les 24 anciens chantent, je lis le verset 17, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Fin de citation. Vous avez remarqué, il n'est plus dit de Jésus qu'il est celui qui vient, comme au chapitre 4, verset 8, puisque là, il est déjà venu sur terre. En effet, il a pris possession de son règne. Mais on peut se poser la question, Dieu ne régnait-il pas déjà? Oui, son règne était déjà acquis, après la croix où Jésus-Christ a souffert, et de par sa résurrection. Mais son règne n'était pas encore établi sur terre, dans le sens que le mal n'avait pas encore été détruit totalement. Là, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ne retient plus sa colère contre les nations en colère. Quel sera le sort des incroyants? Dieu détruira le destructeur, l'antéchrist, et ceux qui détruisent la terre. Quel sera le sort des croyants, sauvés avant et pendant la grande tribulation? Eh bien, ils seront récompensés et régneront avec Christ, voir Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Le verset 18 de notre chapitre 11 nous dit que les morts sont jugés à ce moment, selon la justice parfaite de Dieu. Et le verset 19, je le relis, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Fin de citation. Le temple de Dieu est ouvert, non pas celui sur la terre, mais au ciel. L'arche terrestre, contenant les tables de la loi, avait disparu après l'exil. Mais là, une arche céleste est visible. Le lieu très saint céleste est ouvert à tous ceux qui auront cru en Dieu, juifs ou pas. De même que le lieu très saint du temple terrestre a été ouvert après la mort de Jésus avec le voile déchiré. Plus que le pardon des péchés, le croyant jouira de la présence totale et permanente de Dieu en communion avec son peuple, présence symbolisée par l'arche. La félicité des croyants en présence de Dieu s'accompagnera du jugement des incroyants, avec les mêmes signes que lorsque les croyants priaient dans le temple céleste, en chapitre 8, verset 5, avant que les trompettes ne sonnent. Ce sont, je cite, « des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Fin de citation. Comme quoi, à ce moment, eh bien Dieu a répondu aux prières présentées dans son Saint-Temple. La fin annoncée est arrivée. Alors, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien vous pouvez le faire encore maintenant, par la repentance et la foi en son sacrifice sur la croix pour vous, et la foi en sa résurrection. Ainsi, vous échapperez au jugement des incroyants. Et si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, eh bien, Vous pouvez faire vôtre cette prière qu'est le Notre Père dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Cette prière qui commence par, je cite, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen.
Actes chapitre 3, verset 19.